Chapitre 7. À un certain moment, entre Berlin et Dresde, Georges, qui était resté pendant le dernier quart d'heure à regarder très attentivement par la portière, nous déclara « Mais pourquoi a-t-on l'habitude en Allemagne d'accrocher au haut des arbres les boîtes aux lettres ? Pourquoi ne pas les fixer à la grande porte comme on fait chez nous ? Il me semble que je détesterais grimper au sommet d'un arbre pour prendre mon courrier, sans compter la corvée inutile imposée au facteur. J'ajoute que la tournée de cet employé doit être des plus fatigantes, pour peu qu'il soit corpulent et même dangereuse par des nuits de tempête. S'ils tiennent absolument à suspendre leur boîte à un arbre, pourquoi ne pas l'attacher aux branches basses, au lieu de choisir les branches les plus élevées ? Il est possible que j'émette un jugement téméraire sur ce pays, continua-t-il, une nouvelle idée se présentant à lui. Il est probable que les Allemands, qui nous devancent en beaucoup de points, ont perfectionné le service des pigeons voyageurs. Mais même en ce cas, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il eût été plus simple, pendant qu'ils y étaient, de dresser les oiseaux à déposer leur message plus près de la terre. Ce doit être un travail pénible, même pour un Allemand adulte, de force moyenne, de retirer son courrier de ses boîtes. Je suivis son regard à travers la portière et lui dis « Ce ne sont pas des boîtes aux lettres, ce sont des nids. » « Ah, il faut que vous pénétriez cette nation. L'Allemand aime les oiseaux, mais il n'aime que les oiseaux soigneux. Un oiseau abandonné à lui-même construit son nid n'importe où. Le nid n'est pas un bel objet, suivant la conception allemande du beau. On n'y trouve pas trace de peinture, pas trace de décoration, pas même un drapeau. Une fois qu'il l'a terminé, l'oiseau recommence à aller et venir et laisse tomber sur les pelouses des brindilles, des tronçons de verre, enfin une foule de choses. Il est inconvenant. Il fait la cour à sa femme ou se chamaille avec elle. Il donne la béquille à ses petits et tout cela en public. Le propriétaire allemand en est choqué. Il dit à l'oiseau « Oh, je t'affectionne pour beaucoup de raisons. J'aime te voir, j'aime t'entendre, chanter. Mais je n'aime pas tes manières. Prends cette petite boîte, mets-y toutes tes petites affaires pour que je ne les voie pas. Sors-en lorsque l'envie te prendra de chanter, mais vis-à-vis ta vie intime, reste dans ta boîte et surtout ne salis pas le jardin. En Allemagne, on respire l'amour de l'ordre en même temps que l'air. En Allemagne, les bébés battent la mesure avec le rocher et l'oiseau allemand en est arrivé à être fier de sa boîte et à mépriser les quelques incivilisés qui continuent à construire leur nid sur les branches et dans les haies. Dans la suite des temps, on peut en être sûr, chaque oiseau allemand aura sa place marquée dans les concerts d'oiseaux. Le chant confus et irrégulier de la jante emplumée doit, on le sent, hériter au plus haut point l'esprit si précis des Allemands. Manque de méthode. L'Allemand, amoureux de musique, y mettra de l'ordre. Quelque oiseau de forte taille et de belle prestance sera dressé à tenir le rôle de chef d'orchestre. Pour qu'il ne gâche plus le meilleur de leurs talents dans un bois à 4 heures du matin, il le fera chanter dans un Biergarten, accompagné d'un piano. Telle est la tournure que prendront les choses. L'Allemand aime la nature, mais sa conception de la nature est artificielle et symétrique. Il s'intéresse beaucoup à son jardin. Il plante 7 rosiers du côté nord, 7 du côté sud, et s'ils n'atteignent pas tous la même hauteur et n'ont pas tous la même silhouette, il en perd le sommeil. Chaque fleur, il l'attache après un bâton. Cela nuit à la beauté de la plante, mais il a par contre la satisfaction de savoir qu'elle est là et qu'elle se conduit bien. Il a également un bassin revêtu de zinc. Une fois par semaine, il le retire, l'emporte dans sa cuisine et le récure. Il place un chien de faïence au centre géométrique de la pelouse, qui souvent ne dépasse pas la largeur d'une nappe et est généralement entouré d'arceaux. Les Allemands adorent les chiens, mais en général, il est préféré en faïence. Le chien de faïence ne creuse pas de trous dans les parterres pour y enterrer des os. Il ne disperse les fleurs à tous les vents avec ses pattes de derrière. Au point de vue allemand, c'est le chien idéal. Il ne s'enfuit pas de l'endroit où on le pose et on ne le rencontre pas en des lieux où sa présence est gênante. On peut le choisir parfait en tout point, d'après les derniers engouements de l'exposition canine. Ou bien on peut suivre sa propre fantaisie et avoir quelque chose d'unique. On n'est pas, comme avec les autres chiens, limité dans son choix par les rigueurs de l'hérédité. En faïence, on peut avoir un chien rose, un chien bleu. Moyennant une petite augmentation, on aura même un chien à deux têtes. À date fixe en automne, l'Allemand couche les plantes de son jardin et les couvre d'une natte. À date fixe au printemps, il les découvre et les redresse. Si d'aventure l'automne était exceptionnellement doux ou le printemps exceptionnellement sévère, tant pis pour les malheureux végétaux. Aucun véritable Allemand ne songeait à sacrifier sa pureté d'un rite aux fantaisies incontrôlées des saisons. Incapable de régler le temps, il l'ignore. Aux autres arbres, notre Allemand préfère le peuplier. Certaines nations moins disciplinées pourront chanter les beautés du chêne rugueux, du marronnier ombrageux, de l'orme ondulant sous la brise. Mais ces arbres capricieux et volontaires choquent les yeux allemands. Le peuplier pousse où on l'a planté et comme on l'a planté. Il n'a aucune idée originale ou inconvenante. Ce n'est pas lui qui songerait à étaler des rameaux d'ombre autour d'un tronc tourmenté. Il pousse, simplement, droit, tout droit, comme doit pousser un arbre allemand. Les Allemands déracineront peu à peu les autres arbres pour les remplacer par des peupliers. L'Allemand aime la campagne, mais, comme disait la dame qui avait vu un sauvage, il la préfère plus habillée. Il aime à se promener dans les bois, vers un restaurant. Mais le sentier doit être bordé d'un caniveau en brique pour l'écoulement régulier des eaux et, tous les 15 mètres environ, posséder un banc sur lequel le promeneur pourra se reposer et s'éponger le front. Car l'Allemand ne songe pas plus à s'asseoir sur l'herbe qu'un évêque anglican ne songerait à dévaler en dégringolade d'une pente abrupte. Il aimera contempler du sommet d'un mont la nature, mais il veut sur ce sommet une table panoramique qui lui expliquera ce qu'il voit et une autre table avec un banc où s'asseoir pour un frugal repas, Belegt Semmel et bière dont il a eu la précaution de se munir au départ. Si, en outre, il est assez heureux pour apercevoir, accroché à un arbre, à un arrêté de police lui interdisant de faire ceci ou cela, il éprouvera une sensation particulière de confort et de sécurité. L'Allemand n'est pas ennemi d'un paysage sauvage, pourvu que ce paysage ne soit pas sauvage par trop. Or, s'il le considère comme tel, il s'efforcera de le dompter. Je me rappelle, proche de Dresde, une vallée étroite et pittoresque conduisant vers l'Elbe. Les lacets de la route y suivent un torrent qui, entre des rives ombreuses, écume et bondit parmi les galets et les rocs pendant environ 1 kilomètre. Je le suivais enchanté, lorsque, à un tournant, je me trouvais face à face avec une équipe d'ouvriers occupés à mettre de l'ordre dans cette vallée et à donner au cours d'eau un aspect respectable. Ils enlevaient soigneusement toutes les pierres qui l'obstruaient. Ils cimentaient les rives. Ils arrachaient ou taillaient les buissons et les arbres qui dépassaient les bords, les vignes vierges et les plantes grimpantes. Un peu plus loin, le travail était déjà au point, et je contemplais ce que doit être une vallée d'après les idées allemandes. L'eau, massée maintenant en un courant large et noble, coulait dans un lit aplani et sablonneux entre deux murs couronnés d'une crête imposante. Tous les 100 mètres, elle descendait gentiment 3 marches en bois. Sur chaque rive, une petite étendue de terrain avait été défrichée et à intervalles réguliers, on y avait planté les peupliers. Chaque arbrisseau était protégé par un treillage d'osier et soutenu par une baguette de fer. Le conseil municipal espère, dans la suite des temps, finir la vallée d'un bout à l'autre et en faire une promenade digne de l'amateur pointilleux d'une nature à l'allemande. On y trouvera un banc tous les 50 mètres, un arrêté de police tous les 100 et un restaurant tous les 500. Et voilà ce qu'ils font, depuis le Memel jusqu'au Rhin, mettre en ordre leur pays. Je me souviens parfaitement du Fertal. Ce fut jadis la vallée la plus romanesque qu'on put trouver dans la forêt noire. La dernière fois que je la descendis, j'y rencontrais un campement d'une centaine d'Italiens. Ils étaient en plein travail, traçant à la petite verre sauvage le chemin qu'elle devait suivre. Ils embriquetaient les rives, ils faisaient sauter les rochers, lui fabriquaient des marches en ciment pour qu'elle voyageât avec décence et sobriété. Car en Allemagne, on ne badine pas avec la nature indisciplinée, on ne lui permet pas de faire ses 4 volontés. En Allemagne, la nature est arrivée à bien se conduire et à ne pas donner le mauvais exemple aux enfants. Un poète allemand, apercevant une chute d'eau, ne s'arrêterait pas comme le fit Thaddée devant celle de Lodore pour la décrire en des vers pleins d'allitération. Il s'empresserait d'avertir la police, et dès lors les minutes de la belle chute seraient comptées. « Voyons, voyons, pourquoi tout ce bruit ?» dirait aux eaux la voix sévère de l'autorité. « Vous savez que nous ne pouvons pas tolérer cet état de choses. Allez, descendez doucement. » Où croyez-vous donc être ? Et le conseil municipal pourvoirait ses eaux de tuyaux de zinc, de caniveaux de bois et d'un escalier en colimaçon et leur montrerait comment descendre raisonnablement d'après l'idéal allemand. C'est un pays bien ordonné que l'Allemagne. Nous arrivâmes à Dresde le mercredi soir avec l'intention d'y rester jusqu'au lundi. À certains points de vue, Dresde est peut-être la ville la plus agréable de l'Allemagne. Elle mérite mieux qu'une visite hâtive. Ses musées, ses galeries, ses palais, ses jardins, ses environs riches de souvenirs historiques recèlent du plaisir pour tout un hiver, mais ne font qu'ahurir si l'on n'y reste qu'une semaine. Dresde n'a pas cette gaieté de Paris ou de Vienne, dont on est si vite là. Ces attractions sont plus solidement allemandes et plus durables. C'est la Mecque de la musique. Pour 5 schilling à Dresde, on se procure une salle à l'opéra, mais on y gagne en même temps, hélas, une aversion violente pour les représentations d'opéra en Angleterre, en France et en Amérique. La chronique scandaleuse s'occupe encore de nos jours d'Auguste le Fort, l'homme au péché, comme l'appelait Carlyle, qui affligeait l'Europe, dit-on, de plus d'un millier d'enfants. On visite encore les châteaux où il emprisonnait telle ou telle de ses maîtresses disgraciées. On parle de l'une d'elles qui mourut dans l'un d'eux après 40 ans de captivité. Des châteaux malfamés sont épars un peu partout dans les environs, comme des squelettes sur un champ de bataille. Et la plupart des histoires que racontent les guides sont telles que des jeunes personnes élevées en Allemagne auraient avantage à ne pas les entendre. Son portrait grandeur nature est accroché dans le beau Zwinger, construit d'abord pour servir d'arène aux combats entre animaux sauvages, lorsque le peuple fut là de voir ses combats sur la place du marché. C'était un homme aux sourcils épais, a l'air franchement bestial, mais non sans une pointe de culture et de goût, qualité qui souvent laisse leur empreinte sur ces physionomies-là. La Dresde moderne lui doit certainement beaucoup. Mais ce qui frappe le plus les étrangers, ce sont les tramways électriques. Ces véhicules énormes filent à travers les rues à une vitesse de 10 à 20 km à l'heure, prenant les virages à la manière des cochers irlandais. Tout le monde s'en sert, sauf les officiers en uniforme qui n'en ont pas le droit. Les dames en toilette de soirée allant au bal ou à l'opéra, les garçons de livraison avec panier s'y trouvent côte à côte. Ils sont omnipotents dans la rue et tout, bêtes ou gens, s'empressent de se garer. Si on ne leur cède pas la place et si d'aventure on se retrouve vivant quand on a été relevé, on est condamné, lorsqu'on revient à soi, à payer une amende pour s'être mis sur leur chemin. Cela apprend au public à s'en méfier. Un après-midi, Harris avait fait une balade en cavalier seul. Le soir, pendant que nous étions assis au belvédère, écoutant la musique, il dit soudain, sans raison apparente, oh, ces Allemands n'ont aucun sens de l'humour. Pourquoi dites-vous cela? Demandai-je. Parce que cet après-midi, j'ai sauté sur un de ces trams électriques. Voulant voir la ville, je restais debout sur la petite plateforme extérieure. Donc, comment l'appelez-vous, le Stadtplatz? C'est cela, dit Harris. Vous savez à quel point il vous secoue et comme il faut se méfier des tournants, des arrêts et des départs. Je fis signe que oui. Il continua. Nous étions à peu près une douzaine sur cette plateforme. Moi, naturellement, je manquais d'expérience. Le tram démarra subitement, cela me projeta en arrière. Je tombai sur un monsieur corpulent qui se trouvait juste derrière moi. Il ne se maintenait lui-même pas très ferme et, à son tour, tomba en arrière, écrasant un gosse qui portait une trompette dans une housse en feutre vert. Aucun d'eux ne sourit, ni l'homme ni le gamin à la trompette. Ils se contentèrent de se redresser, l'air renfrogné. J'allais m'excuser, mais avant que j'aie pu dire un mot, le tram ralentit pour une raison quelconque et cela naturellement me projeta en avant. J'allais buter dans un vieux bonhomme à cheveux blancs qui me sembla être un professeur. Eh bien, lui non plus ne sourit pas. Pas un de ses muscles ne broncha. Peut-être, hasardai-je, pensait-il à autre chose. Cela n'est pas possible pour ce cas particulier, répliqua Harris, car pendant ce voyage, j'ai dû tomber au moins 3 fois sur chacun d'eux. Vous voyez, expliqua-t-il, il savait à quel moment on allait arriver à un tournant et dans quelle direction il devait se pencher. Moi, comme étranger, j'étais naturellement handicapé. La façon dont je roulais et tanguais sur cette plateforme, m'accrochant désespérément tantôt à l'un, tantôt à l'autre, devait être du plus haut comique. Je ne dis pas que c'était de la comique raffinée, mais il aurait diverti n'importe qui. Mais ces Allemands ne semblaient pas y trouver d'amusement. Ils paraissaient inquiets. Un homme, un petit homme, se tenait adossé contre le frein. Je tombais 5 fois sur lui. J'ai compté. On aurait pu s'attendre à la cinquième, à le voir éclater de rire, mais non. Il eut simplement l'air fatigué. Oh, c'est une race triste. Georges eut aussi son aventure. Il y avait proche d'Altmarkt un magasin à la vitrine duquel étaient exposés quelques coussins. Le véritable commerce de la boutique était la verrerie et la porcelaine. Les coussins semblaient ne devoir être qu'un essai. C'étaient de fort beaux coussins de satin, enjolivés de broderies à la main. Nous passions souvent devant cette vitrine, et chaque fois Georges s'arrêtait pour les admirer. Il disait que certainement sa tante aimerait en posséder un. Georges s'est montré plein d'attention envers cette tante depuis le début du voyage. Il lui a écrit une longue lettre chaque jour. Et de chaque ville où nous nous arrêtions, on lui a envoyé un souvenir. À mon avis, il exagère, et plus d'une fois, je lui ai dit, sa tante va rencontrer d'autres tantes et elles causeront. et toute cette espèce en sera bouleversée et en deviendra intraitable. Comme neveu, je m'oppose à cet état de trouble que Georges est en train de créer. Mais il ne veut rien entendre. Voilà pourquoi il nous quitta le samedi après le déjeuner, expliquant qu'il se rendait à ce magasin afin d'acheter un coussin pour sa tante. Il dit qu'il ne serait pas longtemps parti et il nous engagea à l'attendre. Nous l'attendîmes un temps qui me sembla interminable. Quand il nous revint, il avait les mains vides et l'air ennuyé. Nous lui demandâmes ce qu'il avait fait du coussin. Il nous dit qu'il n'en avait pas acheté, qu'il avait changé d'avis. Il ajouta qu'au fond, sa tante n'aurait pas tenu tellement à ce coussin. Certainement, il s'était passé quelque chose de contrariant. Nous essayâmes de connaître le fond de l'histoire, mais il ne se montra pas communicatif. Même à notre 20e question, il finit par nous répondre sèchement. Cependant, dans la soirée, comme nous étions en tête-à-tête, il commença de lui-même. « Les Allemands sont quand même un peu bizarres pour certaines choses. Qu'est-il arrivé ? Je voulais donc un coussin. Ah, pour votre tante, remarquai-je. Pourquoi pas ? » Il commençait à se monter. « Je n'ai jamais connu homme si susceptible à propos d'une tante. » Pourquoi n'enverrai-je pas un coussin à ma tante ? Ah non, vous fâchez pas, répliquai-je. Je n'y vois pas d'objection, au contraire, je respecte vos sentiments. Il se calma et continua. Et il y en avait quatre à la devanture, vous vous rappelez bien. Tous quatre semblables et chacun marqué 20 marks en chiffres connus. Je n'ai pas la prétention de parler couramment l'allemand, mais avec un petit effort, j'arrive généralement à me faire comprendre et à saisir le sens de ce que l'on me dit pourvu qu'on ne mange pas les mots. J'entre donc dans ce magasin. Une jeune fille s'avance vers moi. Elle était jolie, elle avait l'air sage, timide même. On ne se serait pas attendu en la voyant à une telle chose. De ma vie, je n'ai jamais été aussi surpris. Surpris de quoi ? Demandai-je. Georges suppose toujours que vous connaissez la fin de l'histoire dont il raconte le commencement. C'est un genre déplaisant. De ce qui arriva, expliqua-t-il, de ce que je vous raconte. Elle se prit à sourire et me demanda ce que je voulais. Je perçus cela parfaitement. Aucun doute ne pouvait surgir dans mon esprit. Je déposai une pièce de 20 marks pour le comptoir sur le comptoir et je dis. « Donnez-moi, s'il vous plaît, un coussin. » Elle me regarda comme si je lui avais demandé un édredon. Je pensais que peut-être elle n'avait pas bien compris, de sorte que je lui répétais ma demande d'une voix plus forte. Si je l'avais caressée sous le menton, elle n'eût certes pas pu avoir un air plus surpris ni plus indigné. Elle me déclara que je devais faire erreur. Je ne voulus pas commencer une longue conversation de peur de ne pouvoir la soutenir. Je lui dis qu'il n'y avait pas erreur. Je lui montrai la pièce de 20 marks et lui répétai pour la 3e fois que je voulais un coussin de 20 marks. Sur ces entrefaites s'avança une autre demoiselle, plus âgée, et la première, qui paraissait bouleversée, lui répéta ce que je venais de dire. L'autre estima que je n'avais pas l'air d'appartenir à cette classe d'hommes qui pouvaient désirer un coussin. Pour s'en assurer, elle me posa elle-même la question. « Est-ce que vous avez dit que vous vouliez un coussin ?»« Je l'ai dit 3 fois, je vais le répéter, je veux un coussin. » Elle dit « Eh bien, vous ne pouvez pas en avoir !» Je sentais la colère monter. Si je n'avais pas réellement tenu à cet objet, je serais sorti de la boutique. Mais les coussins étaient à la devanture pour être vendus, évidemment. Je ne voyais pas pourquoi, moi, je ne pourrais pas en obtenir un. Je déclarais « Et je veux en avoir un !» C'est une phrase bien simple, mais je la dis avec énergie. Une troisième demoiselle parut à ce moment, je suppose que ces trois formaient tout le personnel de la maison. Cette dernière était une petite personne aux grands yeux brillants et plein de malice. En toute autre occasion, j'aurais eu du plaisir à la voir, mais son arrivée m'irrita. Je ne voyais pas l'utilité de trois vendeuses pour conclure cette affaire. Les deux premières expliquèrent le cas à la troisième, et avant qu'elles fussent à la moitié de leur récit, la troisième commença à s'esclaffer. Elle me paraissait d'un caractère à rire de tout. Ensuite, elles se prirent à bavarder comme des pies, toutes les trois à la fois, et toutes les 10 mots, elles me regardaient. Et plus elles me regardaient, plus la troisième riait. Et avant qu'elles eussent fini, elles se tordaient toutes les trois, les petites idiotes. On aurait pu me prendre pour un clown en train de donner une représentation. Quand elles furent suffisamment calmées pour se mouvoir, la troisième vendeuse s'approcha de moi en riant toujours. Elle me dit « Si vous l'obtenez, vous en irez-vous ? » Ben, de prime abord, je ne compris pas très bien. Elle fut obligée de répéter « Ce coussin, quand vous l'aurez, vous en irez-vous tout de suite ?» Moi, je ne demandais que cela, et je le lui dis. Mais j'ajoutais que je ne m'en irais pas sans. J'étais résolu à obtenir un coussin, dussé-je passer toute la nuit dans la boutique. Elle rejoignit les deux autres vendeuses. Je crus qu'elles allaient me chercher le coussin et que le marché allait être conclu. Au lieu de cela, arriva la chose la plus incompréhensible. Ces deux se mirent derrière la troisième, toutes les trois pouffant de rire, Dieu seul sait pourquoi, et la poussèrent vers moi. Elles la poussèrent tout contre moi. Et alors, avant que je comprisse ce qui arrivait, cette troisième posa ses mains sur mes épaules, se mit sur la pointe des pieds et m'embrassa. Après quoi, enfouissant sa figure dans son tablier, elle s'en alla en courant, suivie par la deuxième vendeuse. La première m'ouvrit la porte avec un désir si évident de me voir partir que dans ma confusion je m'en allais laissant derrière moi les 20 marks. Je n'ai pas d'objection à formuler contre ce baiser, quoique je ne l'eusse pas désiré, tandis que je désirais un coussin. Oh, je ne tiens pas à retourner à ce magasin, mais je ne comprends pas du tout cette conduite. Je lui dis, mais... « Qu'avez-vous donc demandé ?» Et il a répondu, « Un coussin. » »« Oui, c'est ce que vous vouliez, je le sais. Ce que je veux dire est, quel mot de la langue allemande moderne avez-vous employé ?» Ben, il me répondit, « Un cus ?» J'expliquais, « Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Cela prête à confusion. Un cus semble vouloir dire un coussin. » Mais il n'en est pas ainsi. Cela signifie « baiser », tandis que « kissen » signifie « coussin ». Vous avez confondu les deux mots. Vous n'êtes pas le premier auquel cela arrive. Je ne suis pas bon juge en la matière, mais vous aviez demandé un baiser de 20 marks, et d'après votre description de la jeune fille, on pourrait estimer le prix raisonnable. En tout cas, n'en parlons pas à Harris, si mes souvenirs sont bons. Il a également une tante, en quoi Georges fut de mon avis. Chapitre 8. Nous nous étions mis en route pour Prague et attendions dans le hall de la gare de Dresde le moment où les employés omnipotents nous permettraient l'accès du quai. Georges, qui était allé au kiosque à journaux, revint vers nous, une lueur malicieuse dans les yeux, et dit « Je l'ai vu !» « Vu quoi ?» demandai-je. Il était trop agité pour répondre intelligiblement. « Ils sont là, ils avancent vers vous, tous les deux, vous allez les voir vous-même dans une minute. Je ne plaisante pas, hein. C'est exactement ça. » Comme d'habitude en cette saison, les journaux avaient fait paraître quelques articles plus ou moins sérieux sur le serpent de mer, je croyais que ce qu'il nous disait s'y rapportait. Un moment de réflexion me fit comprendre que cette chose était impossible, vu que nous nous trouvions en plein centre de l'Europe, à 500 lieues des côtes. Avant que j'eusse pu lui poser toute autre question, il me saisit le bras. « Regardez, dit-il, est-ce que j'exagère ?» Je tournai la tête et vis ce que peu de mes compatriotes ont eu l'occasion de voir. L'Anglais, voyageur, d'après la conception continentale, accompagné de sa fille. Il s'avançait vers nous en chair et en os, vivant et palpable, à moins que ce n'ait été un rêve. C'était le Milord et la Miss Anglais, tels que depuis des générations les caricatures dans la presse comique et sur la scène continentale. Ils étaient parfaits en tout point. L'homme était grand et maigre, avec des cheveux couleur de sable, un nez énorme, de longs favoris. Il portait un vêtement de teinte indécise et un long manteau clair lui tombait jusqu'au talon. Son casque blanc était orné d'un voile vert. Il portait une paire de jumelles en bandoulière et tenait dans sa main, gantée de beurre frais, un alpenstock légèrement plus grand que lui. Sa fille était longue et anguleuse. Je ne puis décrire son costume. Mon regretté grand-père aurait pu mener cette tâche à bien. Il devait être plus familiarisé avec cette mode. Je ne puis que dire qu'elle me sembla inutilement court vêtue, exhibant une paire de chevilles, si je puis me permettre de mentionner ce détail, qui, au point de vue artistique, demandait plutôt à être cachée. Son chapeau me rappelait Madame Hermans, je ne sais pas trop pourquoi. Elle portait des mitaines, un pince-nez et des bottines lacées sur le côté. On les appelait prunella dans le commerce. Elle aussi tenait un alpenstock, malgré l'absence totale de montagne à 100 km à la ronde, et un sac plat maintenu à la taille par une courroie. Les dents lui sortaient de la bouche comme un lapin, et sa silhouette était celle d'un traversin sur des échasses. Harry se précipita sur son Kodak et naturellement ne le trouva pas. Il ne le trouve jamais quand il en a besoin. Lorsque nous voyons Harry se démener comme un possédé et criant « Ah, mais que diable ai-je fait de mon Kodak? Est-ce que l'un de vous me rappelle ce que j'en ai fait ?» C'est que, pour la première fois de la journée, il a aperçu une chose digne d'être photographiée. Et plus tard, il se souvient de l'avoir mis dans sa valise. Ils ne se contentèrent pas de la simple apparence. Ils jouèrent leur rôle jusqu'au bout. Ils avançaient en regardant à chaque pas à droite et à gauche. Le gentleman tenait à la main un becker ouvert. La lady portait un manuel de conversation. Il parlait un allemand que personne ne pouvait comprendre et un français qu'eux-mêmes ils n'auraient pu traduire. Le monsieur touchait de son alpenstock les employés pour attirer leur attention, tandis que la dame se détournait violemment à la vue d'une affiche réclame de cacao en s'écriant « Shocking !» Vraiment, elle était excusable. On remarque même dans la chaste Angleterre que d'après l'auteur de l'affiche, une femme qui boit du cacao n'a que bien peu d'autres besoins terrestres. Il lui suffit d'environ 1 mètre de mousseline. Sur le continent, cette même femme, autant que j'ai pu en juger, est à l'abri de tous les autres besoins de la vie. Non seulement, selon le fabricant, le cacao doit tenir lieu d'aliments et de boissons, mais encore de vêtures. Ceci dit entre parenthèses. Naturellement, ils devinrent le point de mire de tous les regards. Ayant eu l'occasion de leur rendre un léger service, j'eus l'avantage de 5 minutes de conversation avec eux. Ils furent très aimables. Le gentleman me déclara se nommer Jones et venir de Manchester, mais il me parut ne savoir ni de quel quartier de Manchester il venait, ni où cette ville se trouvait. Je lui demandai où il allait, mais il me sembla l'ignorer. Il me dit que cela dépendait. Je lui demandai s'ils ne trouvaient pas l'Alpenstock un objet encombrant pour se promener à travers une ville populeuse. Il admit qu'en effet, l'Alpenstock devenait parfois embarrassant. Je lui demandais si sa voilette ne le gênait pas pour voir. Mais il nous expliqua qu'il ne la baissait que lorsque les mouches devenaient gênantes. Je demandai à la miss si elle s'était aperçue de la fraîcheur du vent. Elle me dit qu'elle l'avait trouvé spécialement froid au coin de rue. Je n'ai pas posé ces questions les unes après les autres, comme je l'ai relaté ici. Je les mêlais à la conversation générale, et nous nous séparâmes, bons amis. J'ai beaucoup réfléchi à cette apparition, et suis arrivé à une conclusion bien définie. Un monsieur que je rencontrai plus tard à Francfort et auquel je fis la description du couple, m'affirma l'avoir lui-même rencontré à Paris, 3 semaines après l'affaire de Fashoda. Tandis qu'un voyageur de commerce pour quelque aciérie anglaise que j'avais rencontré à Strasbourg se rappelle les avoir vus à Berlin au moment de la surexcitation causée par la question du Transvaal. J'en conclus que c'étaient des acteurs sans travail, engagés spécialement dans l'intérêt de la paix internationale. Le ministère français des Affaires étrangères, désireux de faire tomber la colère de la populace parisienne qui réclamait la guerre avec l'Angleterre, embaucha ce couple admirable pour qu'il circulât dans la capitale. On ne peut pas à la fois rire et vouloir tuer. La nation française contempla ce spécimen de citoyen anglais et y vit non pas une caricature mais une réalité palpable et son indignation sombra dans le fou rire. Le succès de ce stratagème amena plus tard le couple à offrir ses services au gouvernement allemand. On sait l'heureux résultat qui couronna ses efforts. Notre propre gouvernement pourrait lui-même profiter de la leçon. On pourrait parfaitement tenir à la disposition de Downing Street quelques petits Français bien gras, qu'à l'occasion on enverrait à travers le pays, avec la consigne de hausser les épaules et de manger des sandwichs aux grenouilles. Ou bien on pourrait réquisitionner une bande d'Allemands mal soignés et mal peignés, dans le simple but de les faire se promener en fumant de longues pipes et en disant « So !» Le public rirait et s'écrierait « La guerre avec cet homme, non, ce serait trop bête !» Si le gouvernement n'accepte pas ma proposition, j'en recommande les grandes lignes à la société pour le maintien de la paix. Nous fûmes amenés à allonger quelque peu notre séjour à Prague. Prague est une des villes les plus intéressantes d'Europe. Ses pierres sont saturées d'histoire et de souvenirs romantiques. Tous ses environs ont servi de champ de bataille. C'est dans cette ville que fut conçue la Réforme et que se trama la guerre de 30 ans. Mais il n'y aurait pas eu à Prague la moitié des troubles qui ont éclaté si ses fenêtres avaient été moins larges et moins tentantes. Le fait initial de la première de ces catastrophes fameuses consista à jeter les 7 conseillers catholiques de la fenêtre du Rathaus sur les pics des Hussites. Plus tard, on donna le signal de la deuxième en jetant les conseillers impériaux par les fenêtres de la vieille bourg dans le Harschin. Ce fut la deuxième défenestration de Prague. Depuis, on a résolu à Prague d'autres questions importantes. L'issue pacifique de ces réunions fait conjecturer qu'elles eurent lieu dans des caves. On a d'ailleurs bien la sensation que la fenêtre a toujours joué, en tant qu'argument, le rôle de tentateur chez l'enfant de Bohème. On peut admirer dans la Theinkirche la chair vermoulue où Jean Hus prêcha. On entend aujourd'hui la voix d'un prêtre papiste s'élever du même endroit, tandis qu'un grossier bloc de pierre, à moitié caché par du lierre, commémore au loin à Constance l'emplacement où Hus et Jérôme expirèrent en proie aux flammes du bûcher. L'histoire est coutumière de semblables ironies. Dans cette Theinkirche se trouve enterré Tycho Brahe, l'astronome qui commit l'erreur banale de croire que la Terre, avec ses mille et une croyances et son unique humanité, était le centre de l'univers, mais qui, d'autre part, observa les étoiles avec clairvoyance. Quoiqu'elles soient bordées de palais, les avenues de Prague sont sales. Ziska l'aveugle a dû souvent les traverser en rate. Le clairvoyant Wallenstein a habité cette ville. Ils l'ont surnommé le héros, et la ville est particulièrement fière de l'avoir eu comme citoyen. Dans son palais lugubre de la place Wallenstein, on montre comme un lieu sacré la petite pièce où il faisait ses dévotions, et, ma parole, on a l'air ici de croire qu'il possédait réellement une âme. Ces chemins raides et tortueux doivent avoir résonné bien souvent sous les pas des légions de Sigismond ou de Maximilien. Tantôt les Saxons, tantôt les Bavarois, et puis les Français, tantôt les saints de Gustave Adolphe, puis les soldats machines de Frédéric le Grand, tous ont voulu forcer ses portes et ont combattu sur ses ponts. Les Juifs ont toujours donné à Prague une physionomie singulière. Il leur est arrivé de porter assistance aux chrétiens dans leur occupation favorite, qui consistait à s'entretuer, et cette grande oriflamme suspendue sous la voûte de la Tönschule atteste le courage avec lequel ils aidèrent Ferdinand le catholique à résister aux protestants suédois. Le ghetto de Prague fut un des premiers établis en Europe. Les Juifs de Prague ont fait leur dévotion depuis 800 ans dans une minuscule synagogue qui existe toujours. Du dehors, les femmes, pleines de ferveur, assistent aux offices, l'oreille collée à des ouvertures spécialement aménagées pour elles dans les murs épais. Le cimetière juif avoisinant Beth Shechem, ou la maison de la vie, a l'air de vouloir déborder de sépulcres. Pendant des siècles, on a, selon la loi, enterré là et nulle part ailleurs les os d'Israël. Les pierres tombales s'y culbutent comme renversées par quelques luttes macabres de leurs os de souterrains. Il y a longtemps que les murs du ghetto ont été nivelés, mais les Juifs de Prague tiennent toujours à leur ruelle fétide, qu'on est d'ailleurs en train de remplacer par de belles rues neuves, qui promettent de faire de ce quartier la plus belle partie de la ville. On nous avait conseillé à Dresde de ne pas parler allemand à Prague. La Bohème est en proie depuis des années à une haine de race entre la minorité germanique et la majorité tchèque. Être pris pour un Allemand dans certaines rues de Prague peut causer des désagréments à celui qui n'a plus l'entraînement voulu pour soutenir une course de fond. Nous parlâmes cependant allemand dans certaines rues de Prague. Il fallait le parler ou rester muet. Le dialecte tchèque est très ancien, dit-on, et celui qui le parle fait montre d'une culture scientifique très haute. Son alphabet se compose de 42 lettres qui évoquent chez l'étranger l'image des caractères chinois. Ce n'est pas une langue qu'on puisse apprendre rapidement. Nous décidâmes qu'en nous en tenant à l'allemand, notre santé courrait moins de risques. En effet, il ne nous arriva rien de fâcheux. Je ne puis l'expliquer que de la manière suivante. L'habitant de Prague est fort astucieux. Une légère trace d'accent, quelque insignifiante incorrection grammaticale a pu se glisser dans notre allemand, lui révélant le fait que, malgré toutes les apparences contraires, nous n'étions pas des Allemands pur sang. Je ne veux pas l'affirmer, je l'avance comme une possibilité. Pour éviter cependant tout danger inutile, nous visitâmes la ville avec un guide. Je n'ai jamais rencontré de guide accompli. Celui-là avait deux défauts bien marqués. Son anglais était des plus imparfaits. En réalité, ce n'était pas du tout de l'anglais. J'ignore comment on aurait pu appeler son baragouin. Ce n'était pas entièrement sa faute, il avait appris l'anglais avec une dame écossaise. Je comprends assez bien l'écossais, ce qui est nécessaire, si l'on tient à être au courant de la littérature anglaise moderne. Mais de là à saisir un patois écossais, prononcé avec un accent slave, et assaisonné de ci de là d'inflexions allemandes. On avait du mal, pendant la première heure passée en sa compagnie, à se débarrasser de l'impression que cet homme étouffait. Nous nous attendions à chaque instant le voir expirer entre nos mains. Nous nous habituâmes à lui au cours de la matinée, et nous pûmes arriver à réprimer notre premier mouvement, qui était de l'étendre sur le dos et de lui arracher ses vêtements chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Nous arrivâmes plus tard à comprendre une partie de ce qu'il disait, et ceci nous permit de découvrir son deuxième défaut. Il avait inventé, depuis peu à ce qu'il paraît, une lotion pour faire repousser les cheveux et obtenu qu'un pharmacien de l'endroit accepta de la lancer et de lui faire de la réclame. Aussi, s'efforçait-il les trois quarts du temps de nous vanter non pas les beautés de Prague, mais les bienfaits que vaudrait à l'humanité son liquide. Il avait pris pour de la sympathie envers sa misérable lotion l'assentiment conventionnel que nous donnions à son éloquence enthousiaste. Nous croyions qu'il nous développait ses idées sur l'architecture. De telle sorte qu'il nous fut impossible de le ramener à tout autre sujet. Il traitait les palais en ruine et les églises branlantes en quantité négligeable, tout au plus bonne à flatter le goût dépravé d'un décadent. Il avait l'air de croire que son devoir ne consistait pas à nous faire méditer sur les ravages du temps, mais plutôt sur les moyens de les réparer. Que nous importaient des héros aux têtes cassées ou des saints chauves? Vivait-on parmi les vivants ou parmi les morts? Et plutôt qu'à ceci, ne devrions-nous pas être attentifs à ces jeunes filles et jeunes gens qu'un usage rationnel du Kofkeo avait louti, tout au moins sur l'étiquette, de nattes interminables ou d'épaisses moustaches? Dans son cerveau, inconsciemment, il avait divisé le monde en deux catégories. Le passé, avant l'usage, des gens peu intéressants à l'air maladif et désagréable. Et l'avenir, après usage, un choix de gens gras, joviaux, à physionomie avenante. Et tout ceci le rendait incapable de nous guider utilement à travers les vestiges du Moyen-Âge. Chacun de nous reçut à l'hôtel une bouteille de son produit. Au début de notre conversation, nous en avions tous, paraît-il, demandé avec véhémence. Je ne peux personnellement ni louer ni condamner cette drogue. Une longue suite de déceptions antérieures m'a découragé, sans parler d'une odeur tenace de paraffine qui, si légère soit-elle, vous attire des remarques désobligeantes. Depuis, je n'essaye même plus d'échantillons. Je donnai ma bouteille à Georges. Il me l'avait demandé pour l'envoyer à un monsieur à Litz. J'appris plus tard que Haritz lui avait également cédé son flacon pour l'envoyer au même destinataire. Un léger relent d'oignon ne nous quitta plus à dater de notre départ de Prague. Georges l'a remarqué lui-même. Il l'attribuait à l'emploi exagéré de la ciboulette dans la cuisine européenne. C'est à Prague que Haritz et moi eûmes l'occasion de témoigner à Georges toute notre amitié. Nous avions remarqué qu'il commençait à avoir pour la bière de Pilsen un amour immodéré. Cette bière allemande est une boisson traîtresse, spécialement par temps chaud. Elle ne vous monte pas à la tête, mais elle vous épaissit vite la taille. En arrivant en Allemagne, je me tiens toujours le discours suivant. Allons, je ne boirai pas de bière allemande, du vin blanc du pays avec un peu de soda, de temps en temps peut-être un verre d'Ernst ou de l'eau carbonatée, mais de bière jamais, ou presque jamais. Cette résolution est bonne, je la recommande à tous les voyageurs. Et comme je voudrais être capable de m'y tenir. Georges refusa, malgré mes supplications, de se limiter si péniblement. Il dit que la bière allemande est salubre, pourvu qu'on en use avec modération. « Un bock le matin, » dit Georges, « un verre le soir, ou même deux. Cela ne fait de mal à personne. » Il avait probablement raison. Harris et moi ne nous alarmâmes que lorsqu'il prit les bocks par demi-douzaine. Oh, « nous devrions faire quelque chose pour l'arrêter, » dit Harris. « Cela devient inquiétant. » Bah, « c'est héréditaire, ce qu'il dit. Il paraît que sa famille a toujours eu soif. » Ben, « il y a l'eau d'Apollinaris additionnée de quelques gouttes de jus de citron. Elle n'entraîne, je crois, aucun danger. Ce qui me donne à réfléchir, c'est son embonpoint naissant. Il va perdre toute élégance. » Nous en causâmes longuement et dressâmes nos plans. La Providence nous aida. Une nouvelle statue venait d'être achevée, destinée à l'embellissement de la ville. Je ne me souviens pas en l'honneur de qui on l'érigeait. Je ne m'en rappelle que les grandes lignes. C'était la statue conventionnelle, représentant le monsieur conventionnel, à la raie d'allure conventionnelle, sur le cheval conventionnel, ce cheval qu'on voit toujours dressé sur ses pattes de derrière et réservant ses pattes de devant pour battre la mesure. Mais, examiné de plus près, ce groupe ne laissait pas que d'être assez original. Au lieu du bâton ou de l'épée qu'on voit partout, l'homme tenait à bras tendu son chapeau à plumes, et le cheval, au lieu de se terminer par une cascade, avait en guise de queue un simple moignon qui ne semblait pas d'accord avec sa fougue imposante. On avait l'impression qu'un cheval muni d'une queue si rudimentaire ne se serait pas cabré de la sorte. On l'avait transporté, mais non pas définitivement, dans un petit square près du bout de la Karlsbrücke. Les autorités municipales avaient décidé fort intelligemment, avant de lui choisir une place définitive, de voir par expérience en quel endroit la statue ferait le meilleur effet. Pour cela, elles en avaient fait exécuter trois copies sommaires, à la vérité de simples silhouettes en bois, mais qui, à distance, produisait l'effet voulu. On avait placé l'une d'elles près de la Franz-Joseph-Brücke, une deuxième dans l'espace libre derrière le théâtre, et la troisième au centre du Wenzelsplatz. « Si Georges n'en sait rien, » me dit Harris, « nous nous promenions de notre côté depuis une heure, Georges étant resté à l'hôtel pour écrire à sa tante. S'il n'a pas remarqué ces statues, eh bien, nous pourrons le rendre meilleur et plus svelte. Et cette bonne action, nous la commettrons ce soir même. Nous tâtâmes le terrain pendant le dîner, et voyant que Georges n'était pas au courant, nous l'emmenâmes à la promenade et le conduisîmes par des détours à l'endroit où se trouvait l'original de la statue. Georges ne voulait qu'y jeter un coup d'œil et poursuivre sa route, comme il fait d'habitude en pareil cas. Mais nous le contraignîmes à un examen plus consciencieux. Quatre fois, nous lui fîmes faire le tour du monument. Il fallut qu'il le regardât sous toutes ses faces. Je suppose que notre insistance l'ennuyait, mais nous voulions qu'il emportât de là une impression durable. Nous lui fîmes la biographie du cavalier, lui révélâmes le nom de l'artiste, lui indiquâmes le poids de la statue et sa hauteur. Nous saturâmes son cerveau de cette statue. Et lorsque nous lui rendîmes enfin sa liberté, ses connaissances sur la statue l'emportaient sur tout le reste de son savoir. Nous l'obsédâmes de cette statue et ne le lâchâmes qu'à la condition que nous y reviendrions le lendemain matin pour la mieux voir à la faveur d'un meilleur éclairage. Nous insistâmes pour qu'il en notât sur son carnet l'emplacement. Puis nous l'accompagnâmes à sa brasserie favorite, et là, lui contâmes l'histoire de Jean qui s'était brusquement adonné à la bière allemande et à qui elle avait été funeste. Les uns envahis d'idées homicides, d'autres enlevés à la fleur de l'âge, d'autres obligés d'abdiquer leurs plus chères ambitions sentimentales. Il était 10 heures quand nous nous mîmes en route pour entrer à l'hôtel. Des nuages épais voilaient la lune par instant. Harris dit « Oh, ne prenons pas le chemin par où nous sommes venus, rentrons par les quais, c'est merveilleux au clair de lune. » Chemin faisant, il conta la triste histoire d'un homme qu'il avait connu et qui se trouvait présentement dans un asile, section des gâteux inoffensifs. Cette histoire, confessa-t-il, lui revenait en mémoire, parce que cette nuit-ci lui rappelait tout à fait celle où il s'était promené avec ce malheureux pour la dernière fois. Il descendait lentement les quais de la Tamise, quand cet homme l'effraya en affirmant voir de ses yeux, au coin de Westminster Bridge, la statue du duc de Wellington, qui, comme chacun sait, se trouve à Piccadilly. C'est à ce moment même que nous arrivâmes en vue de la première des effigies de bois. Elle occupait le centre d'un petit square entouré de grilles, à peu de distance de nous, de l'autre côté de la rue. Georges s'arrêta net. « Qu'y a-t-il, dis-je, un petit étourdissement ?»« Oh, oui, en effet. Reposons-nous une minute. » Il resta cloué sur place, les yeux fixés sur l'objet. Il dit, parlant d'une manière un peu haletante, mais pour revenir au statut, ce qui me frappe, c'est de constater combien une statue ressemble à une autre statue. Harris dit, oh, je ne suis pas de votre avis. Les tableaux, si vous voulez, beaucoup se ressemblent. Quant aux statues, elles ont toujours des détails et caractéristiques. Prenez par exemple celle que nous avons vue à la fin de cet après-midi. Elle représentait un homme à cheval. Il existe d'autres statues équestres à Prague. Aucune ne ressemble à celle-là. Oh, que si, dit Georges, elles sont toutes pareilles. C'est toujours le même homme sur le même cheval. Elles sont pareilles, c'est stupide de dire qu'elles diffèrent. » Il semblait irrité contre Harris. « Mais comment vous êtes-vous forgé cette opinion » demandai-je. « Comment je me la suis forgé, mais regardez donc cet objet maudit là en face. »« Quel objet maudit ? Ben celui-là ! Mais regardez-le donc ! » Voilà bien ce même cheval avec une moitié de queue écabrée, le même homme, tête nue, le même. Harris objecta, « Ah, vous voulez parler de la statue que nous avons vue au Ringplatz ?»« Non, pas le moins du monde, répliqua Georges, je veux parler de cette statue-ci, en face de nous. » « Mais quelle statue ?» s'étonna Harris. Georges regarda Harris, mais Harris est un homme qui, avec un peu d'entraînement, eût fait un excellent acteur. Sa figure n'exprimait que de l'anxiété, mélangée d'une tristesse amicale. Puis Georges tourna son regard vers moi. Je m'efforçais de copier la physionomie de Harris, y ajoutant de mon propre chef une légère pointe de reproche. « Oh, faut-il vous chercher une voiture ?» dis-je à Georges de ma voix la plus compatissante. « J'y vole !»« Eh, que diable voulez-vous que je fasse d'une voiture ?» répondait-il vexé. « On dirait que vous êtes incapable de comprendre une plaisanterie. C'est comme si l'on sortait avec une paire de sacrées vieilles femmes. » Ce disant, il se mit à traverser le pont, nous laissant derrière lui. « Je suis bien heureux de voir que vous nous faisiez une farce, dit Harris, quand nous le rejoignîmes. J'ai connu un cas de ramollissement cérébral qui commença. Oh, vous êtes un fief écréfin, dit Georges, coupant court. Vous savez trop d'histoires. Il devenait tout à fait désagréable. Nous l'amenâmes vers le théâtre en passant par les quais. Nous lui dîmes que c'était le chemin le plus court, ce qui du reste était la vérité. C'était là, dans l'espace vide, derrière le théâtre, que se trouvait la deuxième de ses apparitions en bois. Georges la regarda et s'arrêta de nouveau. « À qui a-t-il ? » dit aimablement Harry, vous n'êtes pas malade. Je ne crois pas que ce chemin soit le plus court, dit George. Ah, je vous assure que si, persista Harry. Eh bien, moi, je vais prendre l'autre. Il s'y dirigea et nous le suivîmes comme avant. Tout en descendant la Ferdinandstrasse, Harry et moi, nous nous entretenions d'asile privé d'aliénés, lesquels, assura Harry, n'étaient pas irréprochables en Angleterre. Un de ses amis, commença-t-il, soigné dans un asile, George nous interrompit. Vous avez un grand nombre d'amis dans des asiles d'aliénés, à ce qu'il me semble. Et il le dit d'un ton agressif, comme s'il voulait insinuer que c'était bien là qu'il fallait qu'on s'adressât pour trouver la plupart des amis de Harry. Mais Harry ne se fâcha pas. Il répondit avec douceur. Le fait est qu'il est extraordinaire, en y réfléchissant, de constater combien on finit comme cela. Cela me rend parfois nerveux. Harry, qui nous précédait de quelques pas, s'arrêta au coin du Wenzelsplatz. George et moi le rejoignîmes. À 200 mètres devant nous, bien au centre, se trouvait la troisième de ces statues fantasmagoriques. C'était la meilleure des trois, la plus ressemblante et la plus décevante. Elle se découpait vigoureusement sur le ciel obscur. Le cheval, sur ses pattes de derrière, avec sa queue drôlement raccourcie, l'homme, tête nue, son chapeau à plumes tendu vers la lune. Je crois, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, si vous pouvez m'en trouver une, que je prendrai bien une voiture, dit Georges. Il parlait sur un ton pathétique. Son ton agressif l'avait complètement quitté. Je constatais que vous aviez l'air tout chose, dit Harry avec compassion. C'est la tête qui ne va pas, hein? Oh, peut-être bien. « Je m'en étais aperçu, affirma Harry, mais je n'osais pas vous en parler. Vous vous imaginez voir des choses, n'est-ce pas ?»« Oh, non, ce n'est pas cela, répliqua George un peu vivement. Je ne sais pas ce que j'ai. »« Je le sais, dit Harry avec solennité, et je m'en vais vous le dire. C'est cette bière allemande que vous buvez. » J'ai connu un homme. Oh, ne me racontez pas son histoire en ce moment, dit George. C'est une histoire vraie, je n'en doute pas, mais je n'ai pas très envie de la connaître. Vous n'y êtes pas habitué, ajouta Harry. Oh, je vais certainement y renoncer à partir de ce soir, dit George. Il me semble que vous avez raison, je ne dois pas bien la supporter. Nous le ramenâmes à l'hôtel et le couchâmes. Il était très petit garçon et plein de reconnaissance. Quelques jours plus tard, un soir, après une grande excursion suivie d'un excellent dîner, ayant enlevé tous les objets à sa portée, nous lui offrîmes un gros cigare et lui racontâmes le stratagème que nous avions combiné pour son bien. « Combien, dites-vous, avons-nous vu de reproductions de cette statue ?» demanda George quand nous eûmes terminé. « Trois, » répliqua Harry. « Que trois ?» dit George. « En êtes-vous sûr ?»« Positivement, » affirma Harry. « Pourquoi ?»« Oh, pour rien, » répliqua George. « Mais j'ai eu l'impression... » qu'il ne crut pas à Harry. De Prague, nous nous rendîmes à Nuremberg par Carlsbad. Les bons Allemands, quand ils meurent, vont, dit-on, à Carlsbad comme les bons Américains vont à Paris. J'en doute. L'endroit serait trop exigu pour tant de gens. On se lève à 5 heures à Carlsbad, c'est l'heure de la promenade des élégants. L'orchestre joue sous la colonnade et le Sprudel se remplit d'une foule dense qui va et vient de 6 à 8 heures du matin dans un espace d'une lieue et demie. On n'y entend plus de langue qu'à Babel, Vous y rencontrez juifs, polonais, princes russes, mandarins chinois et pachas turcs, norvégiens issus d'un drame d'Ibsen, femmes des boulevards, grandes d'Espagne et comtesses anglaises, montagnards monténégrins et millionnaires de Chicago. Carlsbad procure à ses visiteurs tous les luxes, poivre excepté. Vous ne vous en procurez à aucun prix à 5 lieues à la ronde, et ce que vous en obtiendrez de l'amabilité des habitants ne vaut pas la peine d'être emporté. Le poivre constitue un poison pour la brigade des malades du foie qui forment les 4/5 des habitués de Carlsbad, et, comme ne pas s'exposer vaut mieux que guérir, tous les environs sont soigneusement dépourvus. Mais on organise des fêtes du poivre, des excursions que l'on fait fi de son régime et qui dégénèrent en orgies de poivre. Nuremberg désappointe si on s'attend à trouver une ville d'aspect moyenâgeux. Il existe bien encore des coins singuliers, des sites pittoresques, beaucoup même. Mais le tout est submergé dans le moderne, et ce qui est vraiment ancien est loin de l'être autant qu'on croit. Après tout, une ville est comme une femme, elle a l'âge qu'elle paraît. Nuremberg est une dame dont l'âge est difficile à apprécier sous le gaz et l'électricité, complice de son maquillage. Tout de même, ses murs sont craquelés et ses tours grises.